VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. 13h à Bujumbura, 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le gouvernement de Pretoria a assuré aujourd'hui qu'il n'y avait pas de danger immédiat en Afrique du Sud après la mise en garde des États-Unis contre le risque d'attentat dans ce pays d'Afrique australe. Samedi, les États-Unis ont mis en garde contre le risque d'attentat dans un avenir proche dans des endroits où se réunissent des citoyens américains en Afrique du Sud tels que les quartiers commerçants ou les centres commerciaux de luxe à Johannesburg et au Cap. À ce jour, l'Afrique du Sud a échappé aux attentats islamistes, contrairement à d'autres pays africains comme le Kenya, le Burkina ou encore la Côte d'Ivoire. Jean Ping, l'ancien président de la Commission de l'Union africaine et candidat déclaré à la prochaine présidentielle au Gabon, a refusé de répondre à une convocation à la police judiciaire la semaine dernière. Une justice qu'il dit être aux ordres du régime de Libreville. Jean Ping dénonce un harcèlement et se dit déterminé à poursuivre son combat politique.
Tous les jours, risquer l'emprisonnement, et vous venez de voir un exemple, risquer la ruine parce que tous mes comptes sont bloqués, on ne peut faire ça que si on est déterminé. Donc, je sais ce que je risque, la mort, l'emprisonnement, le poison, tout ce qu'il a l'habitude de faire, qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, il n'y a aucun problème pour moi. Mes partisans ont l'habitude de dire de moi qu'il vaut mieux mourir comme un lion que de vivre comme un mouton. Je prends le contre-pied de ce qu'il fait. D'abord, je veux instaurer la démocratie. Je m'y engage dans mon projet de société et je vais le faire. Ensuite, je pense que pour le Gabon, un pays très 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 riche avec une population peu nombreuse, pourtant très pauvre, il faut s'occuper de l'homme, il faut s'occuper du Gabonais. Lui, il s'occupe des éléphants, il s'occupe de tout, mais pas du Gabonais.
Jean Ping, candidat à la présidentielle au Gabon. Un journaliste burundais a été arrêté par la police dimanche dans la province de Cibitoke, dans le nord-ouest, puis remis au Service national de renseignement, le SNR, les services secrets burundais qui dépendent de la présidence, a-t-on appris aujourd'hui auprès des témoins et de ses collègues. Selon une source policière à Cibitoke, Egide Ndayizenga de la radio Bonesha FM a été interrogé sur d'éventuels liens avec des radios d'opposition basées au Rwanda et sur des voyages qu'il effectuerait régulièrement dans ce pays, dont les relations sont très tendues avec Bujumbura. Le journaliste a nié ces accusations selon cette source.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Bénin, les jeunes se révoltent contre les opérateurs de téléphonie mobile avec 2 jours de boycott. Ce mouvement est largement suivi, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Le boycott a été suivi par bien de Béninois. Pour ceux-ci, l'État et les responsables des réseaux de téléphonie mobile ont eu le temps de se faire du beurre sur le dos des populations.
Là où nous sommes, là, il n'y a pas d'argent. Et avant d'acheter le crédit, là, c'est difficile.
Il faut que l'État cesse de nous sucer au niveau des GSM. L'État est comme une maladie qui nous conduit vers la mort.
Pour Nestor Derwindji, économiste et membre de la plateforme, le boycott 229 est une action salutaire qui pourrait redonner vie au panier de la ménagère qui s'affaiblit pour avoir trop contribué à payer des frais de communication trop élevés.
Ce que nous voulons faire, c'est d'améliorer le visage économique du pays. Quelle marge vous allez vous faire comme argent pour aller au marché? Quel argent utiliserez-vous pour nourrir votre petite famille? Je pense que le boycott est une bonne chose parce qu'il va permettre aux populations de mieux vivre.
Les jours à venir seront déterminants pour ces associations de jeunes qui ne comptent reculer qu'à la satisfaction complète de leur demande, à savoir la baisse du coût de la communication et une meilleure qualité des prestations fournies à prix d'or. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
La compagnie aérienne United Airlines cesse ses vols vers Lagos à partir de ce mois de juin. L'espagnol Iberia a arrêté ses liaisons depuis Madrid. Les devises étrangères se font rares au Nigeria à cause de la chute des prix du pétrole. Conséquence, les compagnies étrangères désertent le ciel nigérian. John Needham.
La chute du prix du pétrole, première source de revenus du Nigeria, a créé un manque sévère des devises étrangères comme le dollar. Le contrôle et la limitation des transferts de capitaux imposés par le gouvernement fédéral a rendu plus difficile la possibilité pour les compagnies étrangères de récupérer leurs profits. Mais souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. La compagnie nigériane Arik Air attire plus de clients. Cette compagnie accepte les paiements en Naira sans se soucier de transferts bancaires vers l'étranger. Mais elle doit aussi payer en devises les services dans les pays étrangers. Seulement, avec plus de clients sur les listes d'attente, Arik Air a été obligé récemment de clouer plusieurs avions au sol par manque de kérosène.
Le président nigérian Muhammadu Buhari prend à partir d'aujourd'hui un congé de 10 jours qui va notamment lui permettre d'aller à Londres pour y traiter une otite, a indiqué son cabinet. Le président nigérian âgé de 73 ans a consulté des spécialistes à Abuja, mais ceux-ci et son médecin personnel ont recommandé un autre diagnostic purement à titre préventif, poursuit la présidence. Les corps de 132 migrants ont été retrouvés depuis jeudi près de Zouara, dans l'ouest de la Libye, non loin de la frontière avec la Tunisie. Mohamed Al-Misrati, le porte-parole du Croissant Rouge libyen, a indiqué hier que depuis jeudi, les corps de 129 migrants étaient sur les plages de Zouara. Khaled Ben Khalifa, membre du conseil local de cette ville portuaire, ajoute trois autres cadavres récupérés le samedi près d'un complexe gazier sur la plage de Melita, à 20 km à l'est de Zouara.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Les 10 principaux syndicats britanniques ont publié aujourd'hui une lettre dans le quotidien The Guardian appelant leurs 6 millions d'adhérents à voter pour le maintien dans l'Union européenne lors du référendum du 23 juin. Les responsables des syndicats soulignent que le travail accompli au cours des 30 dernières années avec leurs partenaires européens a permis d'améliorer la protection des droits des travailleurs. La Chine et les États-Unis se retrouvent aujourd'hui à Pékin pour leur face-à-face annuel. Le rendez-vous de cette année est sous haute tension, alimenté par les contentions en mer de Chine méridionale. Idriss Fall.
Le secrétaire d'État John Kerry est arrivé hier soir à Pékin en provenance de Mongolie. Avec le secrétaire au Trésor Jack Lew, ils vont participer lundi et mardi au 8e dialogue stratégique et économique entre la Chine et les États-Unis. Ils seront reçus par le vice-premier ministre Wang Yang et Yang Jiechi, conseiller d'État du président chinois et qui a la main sur la politique étrangère. Le Trésor américain a annoncé un dialogue sur les défis et les opportunités pour les deux pays, mais la liste est longue. Corée du Nord, Taïwan, changement climatique, cybersécurité, terrorisme, le niveau du yuan, la monnaie chinoise, les échanges commerciaux et la coopération entre les deux géants de l'économie mondiale. Le sujet épineux sera sur la mer de Chine méridionale, dont Pékin revendique la quasi-totalité et provoque la colère du Vietnam, des Philippines, de Brunei et de la Malaisie. À Ulaanbaatar hier, John Kerry a dénoncé la militarisation de cette zone maritime riche en ressources et cruciale pour le commerce mondial. Pékin a rétorqué que les pays extérieurs devraient jouer un rôle constructif à ce sujet et pas l'inverse.
Ici aux États-Unis, Hillary Clinton a remporté hier la primaire démocrate de l'île de Porto Rico, se rapprochant de la majorité requise de délégués pour l'investiture présidentielle. À 68 ans, la démocrate devrait dépasser demain mardi la majorité de 2383 délégués, lui garantissant l'investiture, et devenir la première femme investie pour l'élection présidentielle par l'un des deux grands partis américains. 6 États, dont la Californie, voteront alors pour les primaires démocrates, procurant à Hillary Clinton largement de quoi atteindre le seuil fatidique. Il ne lui manquait avant les résultats de Porto Rico que 60 délégués, alors que 694 seront en jeu. Les parties en conflit au Yémen sont parvenues dans le cadre de négociations en cours au Koweït à un accord sur la libération inconditionnelle des enfants faits prisonniers. Dans les deux cas, a annoncé aujourd'hui le médiateur de l'ONU, cet accord, s'il est mis à exécution, serait le premier résultat concret des pourparlers de paix entamés le 21 avril à Koweït entre les rebelles houthis alliés aux partisans de l'ancien président déchu Ali Abdallah Saleh et accusés de lien avec l'Iran. Le gouvernement soutenu par une coalition arabe conduite par l'Arabie saoudite. Et pour terminer, le Français arrêté en mai en Ukraine et qui préparait des attentats en France avant et pendant l'Euro 2016 avait à sa possession 125 kg de TNT et un arsenal de guerre, annoncé aujourd'hui à Kiev. Le chef des services de sécurité ukrainien, Vassil Gritsak, le SBU. Le SBU, qui est le service de sécurité ukrainien, a réussi à empêcher 15 actes terroristes qui étaient planifiés en France à la veille et pendant le championnat d'Europe de football, a indiqué M. Gritsak en précisant que ce Français avait fait part de son opposition à la politique de son gouvernement concernant l'arrivée massive d'étrangers en France, la diffusion de l'islam et la mondialisation. Fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes avec Henri Francis. Pour ma part, bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.